Je suis allé à la pointe Pescade, comme dans la chanson, mais je n'avais avec moi ni Vautrien, ni ami marocain. Il n'y avait pas non plus la moindre trace d'une roue de feu dans le ciel. La plage était déserte en cette saison. La peinture blanche s'écaillait sur les planches de la buvette fermée. La mer bleu-vert ondulait doucement dans le soleil d'hiver. Quelques barques retournées reposaient sur le sable. Assis sur l'une d'elles, un vieil arabe au crâne enturbanné de blanc buvait le thé en fumant une cigarette. Je me suis senti étranger. Je suis allé me planter face à la mer, la Mare Nostrum des anciens, chargée d'une histoire multimillénaire. Il faisait beau, mais plutôt frais. Dans les montagnes, la neige avait atteint par endroits une jolie épaisseur. La Kabylie et l'Aurès avaient décrété l'état d'urgence et réclamé l'aide internationale pour désenclaver les villages coupés du monde. 200 réservistes avaient quitté Alger le matin même en compagnie de 500 volontaires civils pour aller donner un coup de main. De son côté, la Tunisie envoyait des hélicoptères et le Maroc du personnel médical. La solidarité du Maghreb jouait une fois de plus, en dépit des antagonismes qui en opposaient les différents pays. Et la seule chose qui m'avait fait plaisir en ce foutu samedi matin était la rapidité avec laquelle on avait annoncé la participation de l'Algérois aux opérations de sauvetage et de déblaiement. Au bout d'une dizaine de minutes, je me suis détourné du spectacle de la baie et de ses rochers. Là-bas, c'était la France, un pays désormais lointain et menaçant, une ombre inquiétante tapie au-delà de l'horizon. Je lui ai tourné le dos et je suis remonté vers ma voiture. J'arrivais sur le parking lorsque je l'ai vu. Debout au bord de la route, vêtu d'un costume blanc, appuyé sur une canne toute simple à côté de laquelle une bouteille métallique scintillait dans la lumière du matin, il regardait vers moi. À quelques mètres de là, une grosse Mercedes aussi blanche que ses vêtements était garée près de ma deux chevaux, qu'un homme de haute taille en complet veston noir contemplait d'un air pensif en tirant sur une cigarette. Il m'a lancé un bref coup d'œil avant de reporter ostensiblement son attention sur ma voiture. Le vieillard a fait deux pas dans ma direction. J'ai ressenti une impression de déjà-vu ou de déjà-lu. C'était étrange, cet homme en blanc et la plage vide. Le chauffeur discret et le pêcheur nonchalant. C'était étrange et il manquait quelque chose. Je suis allé à la rencontre du vieil homme, je me suis incliné, la main sur le cœur. Bonjour, monsieur Camus.
Nous venons d'entendre Roland Wagner lisant le prologue de Rêve de gloire, le roman qui a obtenu hier, le 12 novembre, le prix européen des Utopiales. Magnifique chant choral à mille voix, Rêve de gloire nous raconte une Algérie alternative dans laquelle le putsch des généraux a réussi et est partitionné. Une partie de son territoire est partitionnée et est encore sous domination française.
Il n'y a pas eu de putsch des généraux ? Ben non, il y a... Non. Ce qui s'est passé, c'est que le général de Gaulle a été assassiné en 1960. Étant donné que son premier ministre, c'était Michel Debré, qui lui était plutôt favorable à l'Algérie française, la guerre a continué. Mais il n'y a pas eu de putsch des généraux, justement, et il n'y a pas eu d'OS.
Je suis désolée, Roland, je me le suis raconté toute seule, cette partie-là. C'est également une histoire alternative du rock. Quelle musique aurais-tu mis pour introduire le prologue que tu viens de nous lire? Moi, j'avais pensé à Let the Sun Shine In, mais toi?
Qu'est-ce que j'aurais mis comme musique pour le prologue? Pour le prologue, peut-être un morceau des 13th Floor Elevators ou des Electric Prunes. C'est vrai que I Had Too Much to Dream Last Night, des Electric Prunes serait bien dans l'ambiance. Ou alors un des morceaux qu'on a fait avec mes potes, mais ça, c'est privé.
Ce prologue est clairement un hommage à Camus. Comment est-ce que tu l'inscris dans ton roman, Camus? Pourquoi?
À partir du moment où le général est mort, Camus peut être vivant. Alors, Camus n'est pas le seul à être vivant. Didouche Mourad, l'un des chefs historiques du FLN, qui dans notre monde est mort en 1955, et devient le premier président de l'Algérie démocratique en 1969. Et Boudiaf, dans les années 70, réussit à, pas supprimer, mais à bien faire baisser la corruption. Et donc Camus, c'est un peu, C'est un peu le symbole de la réussite. La réussite d'un certain esprit de révolte qui débouche heureusement sur la démocratie et pas sur une dictature, faut dire ce qui est.
Tu me réponds de façon politique et j'ai envie de te demander, et littérairement parlant. Je parle de Camus, là.
Pour le roman, j'ai relu tout Camus, quasiment. Bon, ça, pas toutes les pièces, quand même, hein, parce que le théâtre... À lire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, et je préfère voir les pièces. Bah, j'ai relu Camus, en fait, je me suis rendu compte, il y avait très longtemps que j'avais pas lu L'homme révolté, que j'avais pas lu le mythe de Sisyphe. Ce dont je me suis aperçu, c'est que ça s'était vraiment inscrit très profondément en moi, parce qu'il y a énormément d'éléments de sa philosophie que j'ai intégrés en ayant totalement oublié que c'était lui. Donc ça a été un peu une redécouverte de... Ça a été un retour aux sources, mais pas un retour aux sources de l'Algérie, par rapport à Camus, justement, un retour aux sources de certaines réflexions pour moi et de certaines découvertes de certains aspects du monde. Et de... Enfin, j'ai découvert que je devais beaucoup plus que je le croyais. Et ça, c'était bien, ça.
Rêve de gloire est conçu comme... un ensemble de voix qui toutes disent « je », dont nous ne savons pas les noms. Il y a pratiquement une composition que je qualifierais de fractale dans ce roman. Et d'une certaine façon, j'y retrouve encore cette parenté avec Camus dont tu viens de souligner. Est-ce que le fractal t'a paru la seule solution de raconter ton histoire ? Et est-ce que tu accepterais cette définition-là ?
Oui, moi, fractal, ça me va plutôt bien, quoi. Moi, je parlais de mosaïque évolutive pendant que j'étais en train de l'écrire, mais ça, on peut dire que ça revient au même. Mais ce qui est clair, c'est que pour la structure, justement, l'influence, c'est le Brunner de Toussaint Zanzibar, Manhattan Transfer de Dos Passos. Et après coup, quelqu'un l'a signalé dans une critique, et effectivement, j'y avais pas du tout pensé, mais aussi la vie mode d'emploi de Pérec. Voilà. Sauf que bon, évidemment, j'ai fait ça à ma sauce, et que le travail sur la langue est un travail sur l'oralité. C'est-à-dire que le style est très parlé. C'est un travail sur le style parlé aussi, justement, avec des gens qui parlent plus ou moins bien. Mais oui, des gens ont parlé de roman choral, de polyphonie. Oui, effectivement, mais je n'avais pas du tout pensé en ces termes-là. Moi, j'étais fractal me paraît mieux correspondre, vu que c'est une chronique antique.
Le mot choral peut-être colle avec le fait que tu nous racontes aussi une histoire de la musique. C'est peut-être là que s'est situé le hiatus entre roman choral et roman fractal. Mais peut-être que c'est un ensemble, en fait. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ?
On peut peut-être dire, effectivement, que, en un certain sens, le roman est composé comme un morceau de musique assez compliqué. Parce que certains personnages n'apparaissent qu'une fois, certains personnages reviennent, donc il y a des leitmotivs qui peuvent passer d'un personnage à l'autre. Certaines lignes de narration ne suivent pas un personnage, mais montrent, à chaque fois c'est un nouveau personnage, mais avec dans la logique des scènes précédentes. Donc oui, on est quelque chose avec... oui, il y a une introduction, il y a une exposition, il y a des thèmes, il y a des reprises des thèmes, j'emploierai pas le terme symphonie, parce que c'est du rock et qu'on n'est pas là, j'emploierai pas le terme opéra non plus. C'est à mi-chemin entre le rock psychédélique et le rock progressif, quoi. On est entre... Enfin, moi, je sens le roman plus proche d'Interstellar Overdrive, du premier Pink Floyd, que d'un morceau d'Yes, hein, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a le côté construction était essentiel et que À un moment, c'était rigolo, parce que oui, c'était une mosaïque, c'était un véritable puzzle. Il fallait trouver les endroits où les scènes allaient, et au bout d'un moment, en fait, ça venait tout seul, mais... Plus difficile a été de mettre en place les scènes dans les trois premiers chapitres d'habituer le lecteur à la narration pour être certain qu'ensuite il puisse pratiquer l'immersion dans le livre et se laisser porter justement par la musique.
Justement, tu récuses le côté opéra, et moi, lorsque j'ai lu les trois premiers chapitres dont tu viens de parler, de Rêve de gloire, j'ai immédiatement pensé au tout début du Don Juan de Mozart, figure-toi, qui commence par un solo de Leoporello qui regarde Don Juan en train de s'enfuir de la chambre d'Elvire. Il y a donc d'abord un solo, puis un duo, celui de Don Juan et Elvire, puis le duel avec le père d'Elvire. Donc on se retrouve avec trois voix à ce moment-là, et ça devient complètement fou aux environs 10 minutes plus tard, lorsque le mourant, Elvire, Don Juan, l'amant éploré, se mettent à chanter tous ensemble en reprenant et en rechantant ce qui a déjà été dit, mais d'une autre manière. Et franchement, à ce moment-là, effectivement, malgré le fait que tu le recuses, c'est évidemment un opéra aussi. Un opéra rock, mais un opéra.
Oui, enfin la structure, oui, ça peut fonctionner comme ça, d'autant plus que certaines scènes sont vues plusieurs fois par les yeux de personnes différentes, que d'ailleurs il y a des contradictions, évidemment, parce que c'est dans des témoignages, ça colle jamais tout à fait, on le sait parfaitement. Oui, moi je veux bien, mais moi quand je pense opéra, je pense à mon célèbre homonyme, et ça me bloque toujours de parler d'opéra, parce que bon, après Tannhäuser et tout ça, c'est trop impressionnant pour que j'ose faire la comparaison. Mais bon, moi j'ai aussi tendance quand même à penser que le morceau est quelque part, le livre est quelque part un peu comme un ensemble où tu aurais certaines scènes sont des morceaux de punk rock, d'autres sont des... D'autres sont des morceaux psychédéliques, d'autres sont du rock, et certaines n'ont pas de musique du tout, d'ailleurs.
Nous allons parler de la musique, nous allons parler des Vautriens. Personnellement, j'ai retrouvé des choses de tes anciennes œuvres, et notamment de la saison de la sorcière, cette espèce d'enclave à Nard où tes deux voyous s'installent. Qu'est-ce que tu dois à la saison de la sorcière, qu'est-ce que tu dois à John Brunner dans l'onde de choc, parce que là aussi je retrouve cette communauté de sages qu'on trouve dans Précipice, dans Sur l'onde de choc. Je retrouve également des influences de ton vieil ami Norman Spinrad, l'enfant de la fortune.
Bah, quelque part, bon, c'est un livre sur l'organisation aussi. De manière, et le travail d'organisation des scènes que j'ai fait est pas métaphorique, mais quand même symbolique de ce qui se passe dans le roman. Ça part du principe que l'espèce humaine est un système chaotique et que l'organisation, l'ordre entre guillemets, émerge du chaos. Et ben là, on a la période qui est beaucoup de lecteurs ont considéré comme utopique, en fait, est la période de chaos. C'est les années 60, c'est l'époque où les Vautriens, donc qui sont des espèces de hippies français apparus au milieu des années 60, mais qui ont une différence fondamentale avec les hippies, c'est qu'ils ont plutôt tendance à être... ce ne sont pas des mystiques. Ils ne croient pas en l'astrologie, ils ne pensent pas qu'ils vont regarder Dieu en face, et au contraire, ils ont même tendance à vouloir regarder, en tout cas pour les plus structurés d'entre eux, ils veulent regarder la réalité en face. Et donc, c'est sur l'organisation et sur l'auto-organisation, sur la manière dont des structures donc, émergent du chaos. Mais les structures peuvent émerger du chaos bien après. Et en fait, le livre est aussi quelque chose, justement, sur... Il y a un moment d'utopie, mais ce n'est pas vraiment une utopie, parce qu'il y a aussi énormément de mauvais côtés, que d'ailleurs, je n'ai pas hésité à décrire. Quoi. Je veux dire, dans la Casbah vautrienne, tout le monde a la ch'touille, par exemple. Dire quand les gens baissent comme des lapins sans aucune précaution, ils ont les maladies vénériennes et les enfants se répandent. Hein, des fois en même temps d'ailleurs. Et commence justement tout ce bordel, et puis en plus c'est un magma d'idées, d'idées nouvelles ou anciennes qu'on croit nouvelles. Et à un moment, ça va avoir une conséquence, des conséquences qui elles par contre sont vraiment concrètes. Les tentatives, disons, qui à terme sont ratées. De créer un nouveau monde, une nouvelle société, de nouvelles manières de vivre, de penser, etc., finissent par aboutir d'une manière totalement inattendue Et simplement parce que les gens ayant tellement pris l'habitude, et pas seulement les Vautriens et les, tout le monde en algérois, donc, ayant pris l'habitude de s'organiser, et ben, au moment où il est nécessaire de s'organiser pour faire quelque chose, bon, évidemment je ne vais pas dire quoi, ben, il se trouve que ceux qui arrivent à s'organiser sont justement ceux qui apparemment sont les plus désorganisés, et ceux qui normalement devraient être organisés, à savoir les fascistes, ben, sont pas assez nombreux. Et puis en plus pense qu'il va rien se passer et se retrouve, disons que la commune d'Alger est proclamée et essentiellement parce que des forces internes à la société qui ont été déclenchées dans les années 60 se sont manifestées par tout un tas de biais différents, une dizaine d'années plus tard. Mais là, je ne suis pas en train de parler de forces mystiques, spirituelles ou quoi que ce soit, je parle de choses qui sont sociales, je pense qu'on pourrait même parler de phénomènes anthropologiques, et voilà. On est dans... De toute façon, ce qui m'avait intéressé, l'une des choses qui m'a intéressé, c'était justement de travailler sur les effets de la gloire, donc disons des drogues psychédéliques sur la société. Bon, les effets sur les êtres, sur les individus, on les connaît bien. On sait bien que il n'y a pas deux expériences pareilles. Que voilà. Et là, c'était justement l'influence sur la société, parce que je partage une conviction avec Norman Spinrad, c'est que depuis les années 60, les drogues ont écrit l'histoire des États-Unis et l'histoire des sociétés occidentales. Et aujourd'hui, les drogues sont en train d'écrire l'histoire de la planète entière. Sauf que maintenant, ce ne sont plus les mêmes drogues et qu'on n'est plus dans l'expansion de conscience, on est dans des systèmes mafieux et avec énormément d'argent sale et de corruption qui est en train de pourrir tout le système de la planète, quoi. Donc, moi, je ne me suis pas intéressé à cet aspect des choses, même si j'ai déplacé la French Connection en algérois, ce qui donne l'Algiers Connection. Mais c'est vrai que bon, l'influence est indéniable sans rien dénoncer, j'ai voulu montrer Show, Don't Tell.
Là, nous avons vu le Roland rebelle et montreur de la société. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles du Roland qui est dans Rêve de gloire, parce que tu y es, ce roman t'a coûté, tu as mis du temps à l'écrire. Et je note que le printemps de Rêve de gloire, c'est le même que le printemps arabe. Et j'aimerais savoir si c'est une coïncidence.
Total. On peut aussi imaginer que j'ai une connaissance suffisante du monde arabe pour avoir reniflé ce qu'allait se passer, mais moi j'y crois pas. Personne ne pouvait prévoir ce qu'allait se passer au début de l'année. Ça m'a fait très 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 bizarre parce que justement ce qui rappelle dans mon livre Le Printemps arabe était déjà écrit au moment où c'est arrivé. Et notamment l'Algérie qui devient démocratique en 1969 à la suite de nombreuses manifestations non violentes. Quand j'ai vu que ça arrivait en Tunisie, je me suis dit non, c'est pas possible quoi. Là, attends. J'étais en train de terminer le livre et je bossais devant la télé avec la chaîne d'info allumée, puis je regardais ça et puis je me dis non, mais attends, c'est trop beau quoi. Bouquin que j'ai mis 20 ans à concevoir, 5 ans à bien réfléchir, 1 an et demi à écrire, et au moment où je suis en train de le terminer, il se passe des choses qui rappellent ce qui se passe dans le bouquin. Non, mais c'est trop, quoi. J'étais cloué au mur, vraiment. Et vraiment très content. Et je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'en Tunisie, à cause des islamistes, ça va merder. Je ne dirai rien sur la Libye, je ne connais pas bien le truc. Je suis un peu inquiet pour l'Égypte, parce que là, les militaires sont en train soit de merder volontairement ou involontairement la transition, je ne sais pas. Mais en Tunisie, j'ai quand même bon espoir que... Bon, effectivement, on va assister à un retour de l'islam, on va revoir des femmes voilées et tout ça. Mais d'un autre côté, c'était interdit sous Bourguiba. Donc, le minimum de liberté. Et justement, si on décide de faire des élections démocratiques, on accepte le résultat de la démocratie. Et ça, ça a été le problème de l'Algérie. Ça a été de refuser le deuxième tour des élections quand le fils allait gagner, parce que le FLN ne voulait pas lâcher le pouvoir. Mais ce n'est pas tellement le pouvoir que le FLN ne voulait pas lâcher. C'est le pognon. parce que c'est la petite oligarchie qui est en place, qui tient le pays. Et là, ils auraient été obligés de composer avec les barbus. Et moi, je ne suis pas certain que le fils aurait établi une dictature islamique comme en Iran. Tout le monde a cru ça, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Mais bon, moi, pour moi, a priori, et pourtant je suis un affreux mécréant, l'islam politique n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais si nous autres, occidentaux, crétins de chrétiens, pardon, enfin bon, si d'autres gens, d'autres religions considèrent que l'islam politique est un danger et lui font obstacle chaque fois qu'il essaye de se manifester d'une manière, disons, normale, douce par la démocratie. Bon, passant certainement quelques lois que nous on trouvera scandaleuses, mais je veux dire, le gouvernement français actuel a passé des lois qui sont vraiment scandaleuses entre Hadopi et la LOPSI. Je ne parle pas de la LOPSI, quoi. Bon, voilà. Légaliser le droit d'espionner tout le monde, moi je ne sais pas, je trouve que c'est quand même plus grave que d'autoriser les nanas à mettre un voile. Je suis désolé. Et donc, il aurait fallu laisser en Algérie les islamistes se démerder. Et pareil, là, ils ont la majorité en Tunisie. On va voir avec qui vont gouverner, on va voir ce qu'ils vont faire. Alors, peut-être que dans 10 ans, ça sera une dictature islamique, mais peut-être que dans 10 ans, il y aura des élections et que ça sera un autre parti qui gagnera. Voilà.
Tu es encore reparti sur le politique et le général et tu as oublié de me parler de Roland Wagner.
Ouais, mais j'ai pas envie. Enfin... Non, j'ai pas envie. Ce que je veux dire, c'est que bon, là, c'est sûr, moi, étant né à Alger, là, il y a tout un aspect sentimental et émotionnel qui est relié, qui passe à travers le roman. Moi, je suis pas dans le livre.
Non,
il y a mon père, il y a ma mère, il y a la maison de famille, il y a Alger, il y a tout. Moi, j'y suis pas. C'est un monde où je suis pas né. Mais
ah, c'est un point de divergence de cette uchronie là. D'accord. Dis-moi, comment as-tu conçu le fait de jouer sur ces deux lignes narratives, cette histoire alternative du rock, cette histoire alternative de l'Algérie? Il y avait largement de quoi faire un roman de chaque côté. Qu'est-ce qui t'a fait connecter les deux?
Alors ça, c'était avant même de décider de la structure. Bon, je savais que j'avais mon personnage de collectionneur de disques, je suis parti là-dessus, qui est un composite qui mélange pas mal de gens que j'ai connus, dont un excellent ami qui est un collectionneur et vendeur de disques. L'idée, c'était que pour ce personnage, qui n'en a absolument, en gros, rien à foutre de la politique, lui, comme d'ailleurs c'était le cas de beaucoup d'Européens d'Algérie, pour ce personnage, tout ce qu'il sait et découvre sur le passé, sur la guerre d'Algérie, sur tout un tas de trucs, se passe par le rock. Et à ce titre-là, l'histoire du 45 tours est emblématique et symbolique, parce que en essayant de trouver ce 45 tours, il va découvrir énormément de choses, justement, sur le passé, et le lecteur aussi va découvrir énormément de choses. Et comme il y a plein de lignes de narration, le lecteur en saura de toute manière plus que n'importe lequel des narrateurs. Et donc, c'est la grande histoire qui... L'histoire avec un grand H qui passe par le filtre de l'histoire musicale et culturelle, en fait. Voilà, mon idée était là. Je voulais pas du tout, justement, faire quelque chose de pluriel à ce niveau-là, comme Brunner dans Toussaint Zanzibar, par exemple. Non, là, le fil conducteur et le filtre, c'est la musique. C'est la musique et tout ce qui va avec. Le mouvement psychédélique, les cuistots qui préparent à manger des repas gratuits pour les gens, qui à un moment ouvrent un magasin gratuit, tout comme elle avait fait les Diggers de San Francisco. Enfin bon, voilà. Donc effectivement, bon, il y a la musique et la contre-culture, cette version-là de la contre-culture, et c'est à travers ça que tout passe, ou presque.
Il y a également énormément de couleurs et d'esthétique dans Rêve de gloire. Je sais que tu aimes les habits, la façon dont les gens se présentent. Tes Vautriens sont très typés, pas seulement par l'histoire elle-même du mouvement hippie. J'aimerais que tu nous parles de ça, de cet intérêt que tu portes à ces choses-là et que tu nous donnes, que tu nous transmets.
C'est clair qu'il y a une prise de position esthétique de ce point de vue-là. Le fait qu'Alger la Blanche devienne dit Bunte Algiers, Alger la multicolore, parce que les Vautriens se sont mis à peindre des couleurs partout. C'est un peu le symbole de ça. C'est-à-dire c'est un monde de couleurs, c'est un monde fractal, de couleurs fractales. Je sais que... Comment ? On m'a répété plusieurs fois qu'il n'y a pas de progrès en art. Et que l'art évolue, change, mais ne progresse pas. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois qu'il y a un progrès en art. Je crois que il y a eu du progrès au sens propre dans la science-fiction. Et je pense aussi que... Hein ? Et dans la littérature, bien sûr. Mais bon... Enfin, tu coupes. Non, mais il y a du moi, pour moi, dans la science-fiction, il y a du progrès, y compris dans la littérature. Et d'ailleurs, la principale, le principal moteur de progrès dans la littérature des 20 ou 30 dernières années, je dirais même du dernier demi-siècle, c'est la science-fiction. Clairement. Il suffit de voir le nombre d'auteurs de littérature, disons, générale, qui empruntent des tropes à la science-fiction actuellement, et le nombre d'auteurs de science-fiction qui ont tendance à se rapprocher de la littérature générale. Voilà. Moi, c'est une question que je ne me suis pas posée. Je ne me suis pas demandé si ce livre était ou non de la littérature. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que maintenant qu'il est terminé, vu les réactions que j'ai eues, c'est un livre de littérature générale, qui n'est pas un livre de science-fiction, mais un livre de fiction spéculative. Vu qu'il n'y a aucune extrapolation technologique ou scientifique, il n'y a qu'une expérience sociologique, mais dans un monde divergent. Voilà. Et donc, si c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction sur ce qu'on qualifie de molle. Histoire, sociologie, anthropologie. Et de toute manière, le livre est une réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est nous. Et nous, ça change tout le temps. C'est aussi quelque chose. J'ai aussi voulu raconter, en fait, il y a un peuple qui a disparu avec la fin de l'Algérie française. Les Européens, les Français d'Algérie. Je ne suis pas en train de jouer d'être triste ou. Les peuples sont mortels, les sociétés sont mortelles. Maintenant qu'un peuple qui a été privé de terre, il n'a que deux solutions, quoi. C'est soit il se replie sur lui-même, soit il se fond dans la société dans laquelle il se retrouve. C'est pour ça que... moi, j'ai voulu voir ce qu'aurait donné la société française d'Algérie si elle avait continué à évoluer pendant quelques dizaines d'années, et avec de nouveaux apports. Parce que bon, là, Alger devient une espèce de Macao planté tout au nord de l'Afrique. Il y a plein de gens. Par exemple, c'est pas dit dans le livre, mais on le devine que les Allemands, au lieu de s'aller s'installer à Ibiza, il y en a beaucoup qui sont venus à Alger, par exemple, ce genre de choses. Donc la population a évolué. Il y a aussi énormément de gens qui sont venus d'Algérie, des Kabyles, des Chaouias, des Mozabites, des Arabes, donc qui sont intégrés. En plus, il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'être français. Il y a des gens qui veulent être français, alors qu'on leur refuse pratiquement de l'être. Il y a des gens comme moi qui n'ont rien à foutre d'être français, parce que moi, je me sens de nulle part, quoi. Je suis une espèce d'apatride. Mon père est né en Allemagne pendant 15 ans, ensuite il a été dans la Légion étrangère. Ma mère est née à Blida, elle a vécu 40 ans en Algérie, maintenant elle a vécu 50 ans en France. Moi je suis un peu de nulle part, quoi. Alors bon, fils d'un couple, disons, franco-allemand, les années 60-70 c'était bien parce qu'il y avait le rapprochement franco-allemand. Moi j'ai vraiment vécu ça à fond, quoi. Et moi j'étais à fond pour l'Europe et tout. Maintenant quand je vois ce qu'ils ont fait de l'Europe, je suis dégoûté, je veux dire. Je repars sur la politique, mais là quand je vois ce qui se passe en Grèce, mais je veux dire, mais. Pourquoi ils n'arrêtent pas de payer ? Tous les pays qui n'ont pas payé leurs dettes, ils s'en sont beaucoup mieux tirés que ceux qui l'ont payé. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre les banques à genoux. Si mon banquier entend ça, il va me réclamer le remboursement du prêt. Là.
Cette interview se termine. Tu vas nous parler de tes projets ?
Alors, ça a été une telle immersion dans ce bouquin qu'après avoir essayé pendant 4 ou 5 mois de faire autre chose et de faire des débuts de bouquin et de bloquer, au bout d'un moment je me suis retrouvé à écrire une nouvelle pour l'anthologie des Utopiales et que j'ai appelé Le train de la réalité, fragment, et je voulais faire une nouvelle de Space Up, le plus petit Space Up du monde, mais j'ai calé à la moitié, et là je suis sur le recueil, un recueil qui se passe dans le même monde, un recueil de fragments où il y aura un certain nombre de morts du général et l'explication de la raison pour laquelle énormément de gens prétendent avoir tué le général dans ce monde-là. Et des histoires, notamment la nouvelle qui est parue dans l'anthologie des Utopiales, raconte l'histoire d'un personnage qu'on voit apparaître pendant deux lignes dans le roman. C'est le type qui joue de la batterie le 14 juillet, quand les Vautriens prennent d'assaut la scène du bal du 14 juillet, et à ce moment-là invente le gymnase rock psychodélique, ce batteur-là, le type passé par là. Et là, on raconte son histoire, on sait comment il est arrivé là, on sait ce qui lui est arrivé après, et c'est le type qui a tout raté. Et il y en aura d'autres, et donc et ça enrichit le... En même temps, le recueil, pour moi, enrichit le roman, mais le roman n'a pas besoin du recueil pour exister. Ça, c'est très clair. Et je pense que le recueil n'aura pas besoin du roman pour exister non plus. Mais j'aurais pu très bien faire le roman plus gros et mettre tous les fragments du recueil dans le roman pour faire quelque chose d'encore plus... Je sais pas si ça aurait été mieux ou non, mais ce qui est certain, c'est que c'est une possibilité, que c'est une manière de le faire. Et peut-être que si un jour il y a une édition numérique, je ferai un montage spécial avec les deux ensemble. Mais là, nous nageons en pleine science-fiction.
Bien, nous te remercions et au plaisir de lire Le train de la réalité.
En février. Au mois de février. Et c'est peu à peu...